Bien, bonjour à tous. Lors du dernier cours que j'ai fait le 31 octobre, j'ai envisagé les permanences et les évolutions de l'usage des parfums au cours de la période gréco-romaine. Et aujourd'hui, j'aborderai les questions de fabrication en examinant les vestiges d'ateliers de parfumeurs en commençant par l'âge du bronze et en allant jusqu'à l'époque hellénistique. Et à la fin, j'aborderai le site de Délos. Il est vraisemblable que nous continuerons sur Délos au début du cours prochain. Mais avant d'aborder le détail de la fabrication, il convient de terminer l'examen des usages par l'emploi des parfums à l'époque romaine. Dernière phase, si vous voulez, qui est l'emploi des parfums destiné à marquer la distance sociale et les aspects concernant la séduction de l'un et l'autre sexe à l'intérieur d'un milieu social. Nous avons vu en effet que la démocratisation relative de l'usage des parfums avait provoqué la création de deux grandes catégories. Ce produit avait des ingrédients locaux, surtout des fleurs comme le rose l'iris, par exemple. Encore que dans l'iris, on utilise la racine, qui sont relativement bon marché, et ceux qui incluent des aromates exotiques très chers. Que ce soit à l'occasion des banquets et des spectacles ou toute autre occasion sociale, répandre des parfums de prix est la marque de luxe manifestée par les grands et que les parvenus, bien entendu, imitent. Dans l'épigramme du livre 2, 29 de Martial, cet auteur insiste sur ce point en disant « Vois-tu, mon cher Rufus, avec grand apparat, au banc des sénateurs, cet homme qui s'installe, une sardoine orientale de sa main nous révèle le vif éclat, sa toge ternirait la neige la plus pure, et de tir pour son manteau prodigua sa teinture, de ses cheveux les parfums exhalés embaument tout l'amphithéâtre. Il s'agit donc bien de marquer la distance qui sépare les riches des pauvres. Martial brocarde à ce propos le comportement des hôtes qui servent des vins et des parfums différents selon les catégories d'invités. En 3,82, il dit « Et tandis qu'on nous sert du vin des coteaux de Ligurie ou du mou cuit dans les fumées de Marseille, c'est une allusion au vin fumé qu'on pratiquait dans un certain nombre de cités grecques, y compris Marseille, mais je n'insiste pas aujourd'hui, car nous aurons l'occasion, dans une année future, de faire un cours sur le parfum. Donc, on nous sert du mou cuit des fumées de Marseille, il verse à ses bouffons le nectar d'opimus dans des vases de cristal et des vases murins, couverts de parfums des flacons de cosmus. Il ne rougit pas de nous distribuer dans un murex doré celui qui sert à oindre les cheveux des pauvres prostituées. » Le parfum joue donc ce rôle de marqueur social au même titre que le vêtement, la nourriture et les vins, comme c'était déjà le cas à l'époque archaïque. La différence vient donc, ce n'est pas le parfum en soi, mais les parfums composés d'essences exotiques, de la même façon que ce n'est pas le vin en soi, mais les grands crus qui marquent la différence. La distance est aussi marquée par l'abondance. Les aristocrates se mettaient du parfum plusieurs fois par jour, jusqu'à trois fois selon Sénèque dans la lettre 86 à Lucilius. Le linge était parfumé et nous avons plusieurs attestations chez Martial en 8.3, chez Clément d'Alexandrie. Et on allait jusqu'à se parfumer la plante des pieds, c'est ce que nous dit Pline au livre 13.22, Othon et Néron se parfumaient donc la plante des pieds. Calicula ne se baignait que dans des bains d'eau parfumée, et le passage nous est rapporté par Suétone dans la vie de Caligula 37, où il dit, surpassant en prodigalité tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent, inventeur de nouveaux bains ainsi que de repas et de mets extraordinaires, il se faisait parfumer d'essences chaudes et froides, et avalait les perles les plus précieuses après les avoir dissoutes dans du vinaigre et servait à ses convives des pains et des viandes en or. Il avait à la bouche cet adage, il faut être économe ou vivre en César. De la même façon, Elagabal, selon l'histoire Auguste, ne prit jamais un bain sans verser des parfums exquis ou du safran. Donc, être inondé des parfums est le signe même de la volupté qui, selon Sénèque dans les dialogues de la vie heureuse, fustige voluptas, molle, énervée, dégoûtante de vin et de parfum, pâle, fardée, embaumée comme un cadavre. Donc, toujours ce rapport entre, bien sûr, les parfums et les funérailles. Enfin, le parfum est donc, comme but essentiel, y compris à l'époque romaine, destiné à la séduction. Pline, dans le livre 13, paragraphe 20, nous rapporte que, je cite, le plus haut titre de recommandation d'un parfum est, sur le passage d'une femme qui le porte, d'attirer par ses effluves même ceux qui sont occupés à toute autre chose. Plutarque, dans les Moralia 990b, dénigre les parfums, selon lui totalement inutiles, mais qui provoquent excitation, qui empoisonnerait toutes les femmes et une bonne partie des hommes au point qu'ils ne veulent faire l'amour avec leurs épouses à moins qu'elles ne soient enduites de myrrhe ou de poudre. Il suffit de rappeler d'ailleurs en ce propos les nombreux conseils d'Ovide dans l'art d'aimer et dans divers autres traités pour percevoir la place des cosmétiques et des parfums dans la vie amoureuse. Et d'ailleurs, le droit lui-même le prenait en compte puisque dans le Digeste, Ulpien définit leur usage à propos des femmes en les intégrant aux soins du corps. Et en 34, 2, 25, 10, on trouve ce passage. Les objets de toilette de la femme sont ceux qui servent à la rendre plus propre. Il comprend le miroir, le pot de chambre, les parfums, les flacons à parfum et les choses semblables comme le bassin et le coffre en osier recouvert de cuir qui servait à contenir les flacons. Les flacons à parfum font donc partie de ces nécessaires de toilette que les femmes emportent avec elles. Et il est significatif, par exemple, qu'au moment de l'éruption des Vésuves, dans ce moment de panique où les fugitifs essayaient d'échapper à leur destin, on est retrouvé à côté du corps d'une femme en 1984 dans la fouille de la villa dite d'Oplontis B. À côté du squelette, une trousse qui contenait des bijoux, comme vous le voyez sur cette photo, sur cette diapositive, des bijoux, des boucles d'oreilles, des cuirs en argent et un ensemble de quatre flacons à parfum en verre, qui est donc le signe même que ça faisait complètement partie de ce qu'il fallait emporter avec soi, même dans ces moments extrêmement tragiques. Et le Digeste, d'ailleurs, rappelle qu'il est tout à fait normal que les femmes emploient l'argent de leur mari pour l'achat des parfums, et je vous renvoie au passage 24.1.7.1 du recueil juridique. Les femmes, d'ailleurs, serraient leurs cosmétiques et leurs parfums dans une armoire de la chambre à coucher, et on en a la mention dans l'Ars Amatoria d'Ovide en 3.209.210. Et il y avait aussi des nécessaires de toilette donc, qui permettaient de serrer et de maintenir ces flacons à parfum ensemble. Et dans les fouilles de la Villa d'Oplontis, donc toujours la même, on a aussi trouvé, pas au même endroit, une cassette divisée en 9 compartiments qui contenait 7 flacons à parfum et un certain nombre d'autres ustensiles servant à la toilette. De la même façon, dans la maison de Ménandre, au moment de l'éruption, il y avait deux petites cassettes de bois qui contenaient des vases en verre, la plus grande contenant 6 bocaux carrés et des bouteilles qui contenaient donc des parfums, et c'est publié dans la Casa di Ménandre de Maiori, paru en 1933. Donc, en conclusion, nous dirons que les usages des parfums à brûler et des huiles parfumées, qui étaient déjà présents au moins dès l'âge du bronze pour l'adoration des dieux, la médecine, les soins du corps après le bain, le plaisir du banquet et la séduction. À l'époque orientalisante et archaïque, Le parfum était réservé aux princes et aristocrates, et le parfum en soi était d'emblée un critère de distinction sociale. Mais nous avons vu qu'entre l'époque orientalisante et la fin de l'Antiquité, les usages des parfums à brûler, et surtout des huiles parfumées, se sont démocratisés. Le processus était déjà bien entamé en Grèce dès la fin de l'archaïsme, et notamment à Athènes, mais le parfum a maintenu, comme le vin, son rôle de statut symbole en créant une hiérarchie. Celle des vins est basée sur des crus, mis à la mode par les aristocrates, puis par les empereurs et leurs cours, et je renvoie à ce propos aux très fines analyses d'André Tchernia dans ce livre que je vous recommande, qui s'appelle « Le vin de l'Italie romaine », qui est paru il y a plus de 20 ans maintenant, mais qui a gardé toute sa saveur, si j'ose dire, et notamment la fine analyse des hiérarchies sociales du vin. Pour les parfums, c'est l'exotisme des ingrédients qui crée l'échelle des valeurs et la hiérarchie. Plus un parfum est complexe et chargé d'essence, provenant notamment d'Orient ou d'Extrême-Orient, plus il était cher, plus son acquisition et son emploi qualifiaient l'acheteur parmi les riches personnages, dépensant sans compter. Ainsi, les parfums qui incluent de la myrrhe, de la cannelle, du nard indien deviennent des symboles de luxe et se créent donc ces deux catégories, les parfums de luxe, principalement utilisés par les aristocrates pour signer leur place dans la société et pour se reconnaître entre eux, un peu comme des animaux en somme, où l'instinct serait sublimé ou perverti par la culture, par l'apprentissage des fragrances exotiques et coûteuses. Tel était par exemple le cas du nard dont Madeleine enduit le Christ aux grandes dames de Judas, qui aurait préféré utiliser les 300 deniers pour soulager les pauvres. Tel était aussi le cas du foliatum ou du parfum royal, dans lequel entrait un très grand nombre d'aromates exotiques. Et puis il y avait les parfums communs à base d'huile d'olive et de fleurs locales, comme la rose, ce qui explique que le rhodinone n'était plus à la mode dans les cercles aristocratiques au 1er siècle après Jésus-Christ. Pline, en effet, en livre 13, paragraphe 9, nous dit « Je croirais volontiers que le plus répandu des parfums est celui à la rose, fleur qui croît partout en abondance. C'est pourquoi le parfum à la rose fut longtemps de composition très simple, comprenant de l'omphassium, c'est-à-dire de l'huile d'olive verte, des pétales de rose, du safran, du cinabre, de l'accord, du miel, du jonc odorant, du sel fin ou de l'orcanette et du vin. Mais il n'était plus à la mode dans la haute société à cette époque-là. Il était toutefois on continuait de le fabriquer en grande quantité, notamment en Campanie, nous le verrons, en tant que parfum bon marché et en tant que médicament. En effet, on le trouve mentionné durant tout l'Empire, notamment dans l'édit sur les prix de 302, où deux catégories sont affichées, le premier choix de Rhodinone Italicone à 80 deniers et le deuxième choix à 50 deniers. Mais jusqu'où allait cette démocratisation des parfums bon marché sous l'Empire? La multiplication des points d'eau et des termes a-t-elle eu un impact positif sur les pratiques de décrassage qui s'accompagnaient d'onctions huileuses? Le fait qu'il existait des petits termes de quartier, des termes de sanctuaire, des termes dans les villages, est-il un indice d'une diffusion large des pratiques hygiéniques associées à l'emploi des parfums? À la différence de l'époque moderne, il n'y avait pas d'aversion pour l'eau, et les bains et les pratiques balnéaires sont devenus, au cours de l'Empire, un trait de civilisation qui se perdra en Occident, tout au moins au cours du Haut Moyen-Âge. Perte qui sera justifiée par un christianisme qui se méfiait du corps et qui affectait de le négliger pour se rapprocher de Dieu. Comment expliquer et comment l'archéologie pourra-t-elle donner des informations sur des sujets comme ceci, comme elle en a d'ailleurs fourni pour les usages, pour les rites funéraires? Cette question, selon moi, ne pourra être abordée que lorsqu'on disposera d'échantillons représentatifs de fouilles portant sur des habitations pauvres dans les villes et dans les campagnes, qu'il faudra comparer avec les maisons des riches. Et à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore cette documentation, ou tout au moins elle est tellement dispersée qu'elle est très difficile à synthétiser. La question est suivante, est-ce qu'on trouvera dans ses habitats et dans quelle quantité des flacons à parfum et est-ce qu'on pourra les comparer? Je crois que c'est une des voies pour lesquelles sur lesquelles nous devrions progresser. C'est un beau programme de recherche et il me semble que là, il y a peut-être un beau sujet de thèse pour l'avenir. Donc, c'est sur cette interrogation et c'est en quelque sorte cette limite que nous conclurons notre passage sur les usages des parfums et il est temps maintenant d'aborder la question de la fabrication. Fabrication qui présente deux volets, d'une part une connaissance générale des techniques de fabrication et ensuite une application à l'interprétation des vestiges archéologiques. Alors commençons par rappeler ce que nous savons des techniques de fabrication. Dans la composition du parfum, Pline sépare nettement succus et corpus, c'est-à-dire les substances aromatiques, et la base, c'est-à-dire une matière grasse, le plus souvent une huile végétale. Et le passage est très clair dans le livre 13, paragraphe 7. Commençons d'abord par les bases, c'est-à-dire les huiles. Théophraste, dans son traité sur les odeurs, au paragraphe 14 et du paragraphe 14 au paragraphe 16, passe en revue les diverses qualités d'huile employées en parfumerie. Les huiles étaient donc employées comme base susceptibles de recevoir et surtout de conserver les odeurs. La plus prisée était l'huile de benne, extraite de noix produite par un arbuste qui pousse dans le désert d'Égypte et de Syrie. Elle était la plus appréciée car la moins visqueuse et la plus réceptive. Toutefois, c'était l'huile d'olive verte qui était la plus couramment employée car c'est un arbre qui est ubiquiste et que l'on peut donc utiliser en grande quantité. Mais on utilisait aussi de l'huile d'amande amère, notamment en Cilicie ou à la Bondée, et de l'huile de sésame, qui était particulièrement appréciée en Orient pour fixer l'odeur des roses. En Italie, c'était surtout l'huile d'olive qui formait la base des parfums, et Pline, dans le livre 13, paragraphe 7, nous dit « Deux éléments interviennent dans la fabrication des parfums, la partie liquide et la seconde qui apporte l'odeur, et il ajoute que c'est l'huile qui fait la particularité, et l'huile d'olive qui fait la particularité de la Campanie et sa célébrité. On recherchait les huiles les plus neutres et les moins visqueuses possibles, qu'on extrayait donc d'olives encore vertes ou cueillies au moment de la véraison. C'est ce qu'on appelle l'oleum onfacium ou onfakinon en grec. Et Pline, au livre 12, paragraphe 130, nous explique qu'on l'extrait de l'olive encore blanche et celle qui, au moment où, où les olives tournent, est considérée comme moins bonne, mais c'est encore utilisable. Columel, à peu près à la même époque, au livre 12, paragraphe 54, ajoute qu'il faut presser une première fois les olives bigarrées, les dilacérer sans les broyer complètement avec un boulin, c'est-à-dire en évitant de broyer le noyau, puis en les plaçant dans des couffins neufs pour exprimer la première huile sans serrer le pressoir. Théophraste indiquait aussi qu'il fallait employer de l'huile fraîchement extraite et non celle de l'année précédente, ce qui justifie que les parfumeurs consciencieux aient possédé leur propre presse. Et cela d'autant plus qu'il était parfois nécessaire d'utiliser la presse dans la préparation d'autres ingrédients, tels que l'utilisation de la myrrhe, dont on extrayait la partie liquide, le statke, au pressoir. Et je vous renvoie au paragraphe 29 du Deodoribus de Théophraste. Certaines huiles de Campanie, comme celle de Vénafre, entre Naples et Rome, au nord de la Campanie, étaient d'abord recherchées pour leur aptitude à servir d'excipient en parfumerie. Pline, au livre 15, paragraphe 8, dit « Cette huile de Vénafre doit sa victoire, il dit palmam, donc sa palme, au parfum, car son odeur s'en accommode très bien. » Et dans un très joli épigramme, au livre 13, épigramme 101, Martial écrit que le parfum à la rose conserve la fragrance de l'huile de vénafre, c'est-à-dire que derrière l'odeur de rose, on sentait un parfum d'olivier dans un mélange qui n'est peut-être pas aussi désagréable que cela nous paraît aujourd'hui. Au total, donc, 6 catégories principales d'huile étaient employées en parfumerie et en pharmacie. Le ben, je l'ai dit, donc, qui est cet arbre d'Égypte, les olives sauvages ou les olives vertes, la date adipsos, qui est peut-être le palmier d'Oum, l'huile d'œillette, c'est-à-dire l'huile du pavot cultivé, l'huile de sésame et l'huile d'amande. L'artisan les extrayait en broyant les fruits dans des mortiers et en pressurant la pâte à l'aide d'instruments... qui parfois ne laissent pas de traces, et nous verrons que ça pose un problème, notamment lorsqu'on utilisait des sacs pour exprimer les huiles, selon d'ailleurs des représentations, on en a quelques représentations dans les peintures égyptiennes depuis l'Ancien Empire jusqu'à l'époque ptolémaïque. Pendant très longtemps, les fabricants d'huile à parfum se sont contentés de ces instruments primitifs. Et ce qui explique qu'on ait tellement de mal, nous le verrons, à distinguer leurs installations. Il y a un changement à partir de l'époque hellénistique, surtout à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, quand les parfumeurs ont commencé à utiliser des pressoirs plus importants, qui laissent des traces. Et nous verrons donc avec tout à l'heure, avec l'exemple de Délos, qu'on a témoignage à partir de ce moment-là de pressoirs verticaux imposants qui comportent une grande pierre qui permet de poser les scourtins remplis de pâtes, soit d'huile de pâte, soit d'olive, soit d'amande, soit de la graine quelconque que l'on veut presser, caractérisés aussi par des montants verticaux et des séries de coins qu'on enfonçait avec les madriers. C'est le système qui est utilisé à Délos et qui est représenté sur des peintures de Pompéi, mais nous allons le voir tout à l'heure. Et ensuite, au cours de la seconde moitié du 1er siècle de notre ère, ces pressoirs traditionnels, mais qui étaient relativement mal commodes, furent progressivement remplacés par des pressoirs à vis centrale. Et je pense qu'il faudra restituer des appareils de ce type dans les installations de Pestum et de Pompéi que nous verrons la semaine prochaine. Alors, on a obtenu donc les huiles et il faut maintenant fixer les odeurs dessus. Alors, les odeurs sont extrêmement multiples, elles viennent des aromates et à l'époque hellénistique et impériale, ces substances aromatiques sont extrêmement nombreuses. À cette époque-là, on n'emploie plus guère les bois odoriférants, tels que le cèdre, le cyprès ou le genévrier, qui avaient été très prisés au cours du second millénaire avant Jésus-Christ. Mais on utilise principalement des fleurs, des rhizomes et des résines d'arbres ou d'arbustes. Parmi les fleurs, citons les roses et les violettes, dont Pline nous dit qu'elles faisaient la réputation de Palestrina et de Tusculum. Et je vous renvoie l'Histoire naturelle, livre 13, paragraphe 5, et livre 21, paragraphe 16 à 27. L'iris, dont on utilisait le rhizome, et Pline en parle en 21-41. La lavande, également une sorte de nard qui est produit en Ligurie et en Istrie, mentionné au livre 13, paragraphe 18 et en 21-135. Et en somme, Pline nous dit, pour ce qui est du vin, des roses, des feuilles de myrte et de l'huile, on peut dire qu'on les trouve presque partout. Ce qui explique donc que c'était ces aromates qu'on utilisait le plus fréquemment dans les parfums bon marché. Mais les parfums se sont rapidement complexifiés du fait de la recherche de la nouveauté et de la mode en utilisant des substances exotiques écouteuse. Pline, au livre 13, paragraphe 18, parle du parfum dit royal parce qu'il est composé pour les rois des Parthes, et il nous donne non pas la recette, mais la liste extrêmement longue des ingrédients qu'il comporte. Sur une huile d'ébène, il y avait aussi du costus, de l'amone, de la cinname, comac, de la cardamome, du nard, de la myrrhe, de la casse, du styrax, du ladanum, du baume de Judée, de l'accor, du jonc odorant de Syrie, de l'œnante, du malobâtre, du henné, de l'aspalate, du panax, du safran, du souché, du lotos, du miel et du vin. Et il ajoute, aucun de ces parfums n'est produit, de ces ingrédients, pardon, n'est produit en Italie, pourtant victorieuse de toutes les nations, ni même en Europe, à l'exception de l'iris d'Illyrie et du nard celtique de Gaulle. On importait donc des écorces et des résines odoriférantes d'Orient et d'Arabie, que l'on utilisait à la fois pour leur parfum propre et comme fixatif des autres odeurs. Strabon divise l'Arabie en quatre régions, selon qu'elles produisent de l'encens, de la myrrhe, du cinnamome, de la casse ou du nard. Ce qui est une erreur, puisque la cinnamome, la casse et le nard gangétique ne sont pas produits en Arabie, mais transités seulement par ces contrées. La myrrhe était un des aromates les plus employés. Théophraste, en 6-28, indique qu'elle entre dans la composition du parfum égyptien et dans le magaléon. Pline mentionne son emploi dans le mendésium, le métopium, le suginum, le cyprinum, le cinnamominum, le nardinum, également appelé foliatum. Il indique qu'on peut en mettre dans tous les parfums, même bon marché, pour leur donner de la consistance et de la suavité. C'est donc le rôle essentiel de la myrrhe en tant que fixateur qui crée donc ce qu'on appellerait aujourd'hui du sillage. De la même façon, Dioscoride, au livre 1, paragraphes 52 à 55 et puis 58 à 63, utilise la myrrhe dans l'élaboration de divers parfums, le narcissinum, le croquinum, le cyprinum, l'amarachinum, le métopium, le mendésium, le cinnamominum et le nardinum. Donc, on voit que c'est un des ingrédients de base que les parfumeurs devaient avoir en permanence dans leur boutique. Mais d'autres ingrédients viennent de moins loin. En Carie et en Cilicie, par exemple, on extrayait le styrax. Et à ce propos, je vous renvoie un article absolument formidable de Suzanne Amig qui s'appelle « Le styrax et ses usages antiques » paru dans le journal des savants en juillet-décembre 2007, page 261-318, qui a offert une synthèse très complète sur cette substance qui est connue dès Hérodote au livre 3, paragraphe 107. Madame Amig souligne que les anciens confondaient deux substances résineuses, le styrax liquide, qui est un sucre résineux, et le styrax dit calamite, qui est une résine solide composée de grumeaux que, selon Galien, on mettait dans des roseaux de Pamphylie, ce qui explique son nom, donc le contenant, le calame, a donné son nom à ce styrax particulier. Le styrax calamite est produit par l'Alibouffier, en fait. Aujourd'hui, on l'appelle le styrax officinalis. L'Alibouffier, qui est un arbuste qui peut atteindre 6 mètres de hauteur, et qui donne une résine odorante uniquement si on incise des sujets âgés et que le climat est chaud. C'est en sorte une sorte de défense de l'arbre qui lutte donc contre une blessure. Ce styrax a été, semble-t-il, utilisé très tôt en fumigation liturgique, et on le trouve par exemple dans la Bible, dans l'Exode, en 30 34-37. Toutefois, cet alibouffier devait être déjà relativement rare dans l'Antiquité et on a cherché dès cette époque un produit de substitution que l'on appelle le styrax liquide, qui est en fait le liquidambar orientalis, qui provient, lui, d'un grand arbre pouvant atteindre jusqu'à 35 mètres de hauteur, qui est localisé en Carie, en Lycie et à Rhodes. Il produit une oléorésine à odeur de vanille, utilisée en tant que substance odorante et comme fixateur dans les parfums. D'autres contrées de l'Empire produisaient des substances intéressantes, comme Chypre, par exemple, où on recueillait le ladanum, qui est la gomme du Cistus incanus, et qu'on recueillait dans les toisons des chèvres avec un peigne, parce que cette gomme se fixe à la barbe, en quelque sorte, et au poil des chèvres lorsqu'elles broutent l'herbe, enfin cet arbuste qui s'appelle le ciste. Pline, d'ailleurs, le raconte très bien au livre 12, paragraphe 73-74, lorsqu'il dit que les chèvres, en broutant, accumulent l'adanum dans leur pelage, en agglomérant ainsi le produit et la poussière, et ce ladanum était... Le meilleur ladanum était réputé venir de Chypre, mais on en produisait en d'autres contrées, notamment en Arabie. Et il nous dit d'ailleurs en 1272 que l'Arabie tire sa gloire du ladanum, et c'était notamment une des productions des Nabatéens, c'est-à-dire du nord de l'Arabie. Le pré-désert de Judée fournissait d'autres ingrédients comme le galbanum, la gomme adragante et le fameux baume de Judée qui valait si cher. L'Arabie, comme nous l'avons vu, fournissait l'encens et la myrrhe. L'Inde fournissait la cannelle, le malabâtre, le nard indien et à travers l'Inde venait la cinnamone. Et le nard, par exemple, entre dans la littérature au IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors, c'est tantôt une valériane, tantôt une lavande, mais celle qui vient d'Inde et qui est mentionnée par Théophraste en 9-7-2 et par Pline en 12-42-46 est probablement le naladande qui pousse au Népal ou peut-être l'andropogone nardus qui est une graminée en épi qui pousse dans le même secteur. Pour Dioscoride, le nard entre dans la liste des ingrédients utilisés dans le cricinol, le cyprinum, etc. Et pour Pline, il est parfois ajouté au cyprinum. On le retrouve donc dans la composition des parfums bon marché, même si c'est à dose très faible. Mais on l'utilise aussi dans des parfums beaucoup plus coûteux, comme le parfum royal. Et il entre donc dans la liste donnée par Pline en 13, 10, 11. Donc, tous ces ingrédients étaient utilisés par les parfumeurs dans leur composition et ils avaient donc dans leur boutique ces diverses matières premières qu'on pouvait acheter directement. Caton, par exemple, dans le De Agricultura 113.1, dès le début du IIe siècle avant Jésus-Christ, cite la palme qu'on peut trouver chez les unguentari. Et de même, Scribonius Largus, lorsqu'il énumère les divers ingrédients entrant dans ses compositiones, précise que certains d'entre eux font partie de ceux qu'utilisent les parfumeurs et donc que l'on peut trouver chez eux. Ce commerce avec l'Orient, et surtout au-delà des mers et au-delà des déserts, constitue donc un facteur essentiel de l'industrie du parfum depuis les origines et donc depuis les expéditions au pays de Punt qui sont mentionnées dès l'Ancien Empire et bien illustrées par les bas-reliefs d'Hatshepsut comme vous avez sûrement vu. Et à l'époque pharaonique, ptolémaïque puis romaine, l'Égypte, grâce à cette position centrale sur ces routes des ingrédients, sera un toujours un grand centre de fabrication et d'importation des aromates, de la même façon que la Palestine et la Judée, parce qu'ils se trouvent donc sur ces routes, à l'interface en quelque sorte, entre les zones de production et les zones de consommation. C'est la raison pour laquelle les parfums de Mendès et de Memphis garderont leur célébrité tout au long de l'Antiquité et sous l'Empire romain. Nous avons vu précédemment qu'à l'époque archaïque, les protagonistes exportateurs de parfums sont principalement Chypre, Corinthe, Sparte, la Grèce de l'Est, puis à l'époque classique, Athènes. Et pour les mêmes raisons, donc, le relais sera pris un peu plus tard par l'île de Délos après la destruction de Carthage, de Corinthe, pardon, en 146 avant Jésus-Christ, Carthage détruite par Lucius Mimus, tout simplement parce qu'à ce moment-là, Délos deviendra la plaque tournante des commerces, et notamment des commerces des aromates, et donc sera un lieu idéal pour fabriquer les parfums. Mais à la fin de la République et sous l'Empire, un autre centre émergera, la Campanie, dotée à la fois du pouvoir, parce que c'est le lieu de villégiature de l'aristocratie, aristocratie qui domine le monde méditerranéen, et donc ce lieu de pouvoir va lancer les modes et donner le ton, et c'est aussi une grande zone, nous l'avons vu, de production d'huile de qualité dans la région de Vénafre et de culture des fleurs, surtout des roses. Et enfin, c'est un endroit où arrivent à Pouzol les gommes et les résines de la Palestine et de l'Égypte, et à travers elles, à travers le port d'Alexandrie, à travers la douane de Coptos et le désert oriental d'Égypte, arrivent donc l'encens, la myrrhe d'Arabie et les substances fournies par l'Inde. Ce trafic des aromates est donc le moteur essentiel du commerce et justifie l'envoi d'agents commerciaux à partir de l'époque d'Auguste directement en Arabie et en Inde, et nous en avons quelques traces archéologiques dans les inscriptions qu'ont laissées certains de ces agents, tels que l'Odanès, que vous voyez ici dans cette inscription du Panéon du Wadi Meni, qui est une grotte située au milieu du désert oriental d'Égypte où passaient les caravanes transportant les aromates, et d'une façon générale, les produits venant d'Inde. C'est donc ce petit abri sous roche qui est formé par ces gros rochers, et on se mettait à l'abri dans ce petit abri, et les voyageurs, en tout cas les voyageurs de commerce, si on peut les appeler ainsi, ont laissé des graffitis très caractéristiques, comme par exemple ce Lodanès qui qualifie comme esclave de Calpurnius Moschas, ou au-dessus ce Lysas qui est esclave des Anii Plocami de Pouzol et qui gravèrent donc leur nom lorsqu'ils sont revenus de leur séjour en Égypte pour le compte des familles qui en étaient propriétaires. Ce commerce, ce grand commerce, nécessitait aussi l'affrètement de navires tels que par exemple l'Hermapolone, qui est connu par le papyrus dit de Vienne, qui date du IIe siècle après Jésus-Christ, et qui indique qu'il ramenait d'Inde du nard gangétique, de l'ivoire et certainement d'autres épices pour la somme considérable de 7 millions de sesterces. Et je vous renvoie à plusieurs articles, un de Federico de Romanis, qui s'appelle « Commercio Metrologia Fiscalita », paru dans les mélanges de l'École française de Rome en 1998, et l'article de Dominique Rathbone qui s'appelle « The Musuris Papyrus » dans les mélanges en honneur de Mustapha Abad. Mais c'est une question que nous aurons l'occasion d'aborder dans les années qui viennent, lorsque nous traiterons plus en détail de ces voies caravanières qui traversaient le désert oriental d'Égypte. Mais il n'y avait pas que le désert d'Égypte et les voies maritimes. Le trafic prenait aussi d'autres voies à travers le désert d'Arabie et de Mésopotamie. Une de ces voies, par exemple, aboutissait à Palmyre. Et le tarif de Palmyre, qui est donc le tarif de la douane, qui est daté de 137 après Jésus-Christ, nous indique que les marchandises, bien sûr, payaient des taxes en entrant dans l'Empire, et on voit qu'arrivaient par cette voie des parfums probablement déjà composés qui voyageaient à dos d'âne dans des outres. On voit donc que la gamme des aromates utilisés dans l'Antiquité est très vaste, et ce n'est pas ici le lieu de l'examiner plus en détail, il suffit pour notre compréhension des installations de comprendre comment on fixait ces aromates sur les huiles, et c'est le point que je vais aborder maintenant qui s'appelle donc l'enflorage. Les huiles parfumées, en effet, étaient obtenues en fixant les arômes sur des supports graisseux qui étaient rendus réceptifs par un traitement astringent, utilisant des plantes comme, par exemple, le souchet. Ces huiles étaient donc préparées par enfleurage à froid, et c'est par exemple le cas de l'huile de Nantes, si l'on suit les recommandations de Dioscoride au livre 1, paragraphe 43, ou du glauquinon utilisé comme médicament selon Columel, livre 12, paragraphe 53. Mais le procédé le plus couramment utilisé était l'enfleurage à chaud, qui était par exemple pratiqué pour le parfum à la rose, dont Dioscoride nous donne la recette assez précisément en livre 1, paragraphe 43, et qui dit qu'on utilisait plus de 1000 pétales de rose pour le faire. Théophraste est très clair sur les procédés lorsqu'il indique que l'huile doit être chauffée au bain-marie et que ce chaudron ne doit pas être en contact avec la flamme sous peine de prendre une odeur de brûlé. Par ailleurs, il recommande d'ajouter du sel à l'huile de rose, certainement afin de retarder le rancissement, ce qui est confirmé par Dioscoride au livre 2, paragraphe 53. Selon Dioscoride en 1,56, pour le parfum d'iris, on devait employer 9 livres 5 onces d'huile pour 5 livres 8 onces de tiges de fleurs mâles de palmier que l'on faisait bouillir dans un chaudron de cuivre jusqu'à saturation de l'huile en essence végétale. D'autres procédés, comme la distillation et la condensation, semblent être connus depuis très longtemps, mais n'ont connu vraisemblablement que des emplois limités à certaines régions ou pour des recettes spécifiques. À l'époque gréco-romaine, la distillation est mentionnée sporadiquement par les sources, et jusqu'à présent, on n'en a pas trouvé de vestiges archéologiques clairs, ou même pas du tout. Et les sources écrites sont principalement de la période impériale moyenne. On a, à la fin du IIIe siècle, plusieurs variétés d'alambic qui sont décrites dans le traité d'alchimie de Zosime. Et on nous dit que Marie la Juive, qui a donné son nom au bain-marie, est réputée pour avoir perfectionné ses alambics. Mais jusqu'ici, comme je vous le dis, on n'a pas de véritable source très précise sur l'emploi de la distillation à l'époque gréco-romaine. Pourtant, le procédé, comme nous allons le voir, semble avoir été bien connu dès l'âge du bronze. Mais avant d'aborder les ateliers de parfumerie datés de l'époque hellénistique et de l'Empire romain, je voudrais faire un rappel de ce que l'on sait des installations antérieures, celles de l'âge du bronze, qui ont principalement été identifiées à Chypre et en Crète. Nous allons voir que ces installations posent un certain nombre de problèmes d'interprétation liés en partie au fait qu'il n'y a pas une très grosse différence entre une installation de production des parfums et une cuisine. Commençons par Chypre. Nous avons déjà dit l'importance de Chypre dans l'histoire des parfums. La mythologie en fait le lieu de naissance d'Aphrodite. dont le sanctuaire de Paphos était, dès les origines, mythique, rempli de parfums. C'est aussi le lieu du mythe de Myra, hein, coupable d'inceste avec son père Kiniras, roi de Chypre, et qui fut changé en arbre de son écorce suintée des larmes, et son enfant, né de l'écorce, justement, Adonis, était le dieu des parfums. Mais, de façon plus prosaïque, c'est une île qui est située au carrefour de beaucoup de voies de commerce depuis une époque très ancienne, et elle était, dès le deuxième millénaire en tout cas, certainement couverte de forêts de cyprès, de pins, de genévriers, d'alibouchiers. Il y poussait la vigne sauvage et le henné, qui est une sorte de troène. Il y poussait le ciste, l'adanifère, nous l'avons vu, il y poussait l'iris, la marjolaine, le myrte, le pavot, etc. Donc, on doit s'attendre à mettre au jour des installations de toutes les époques. Mais jusqu'à présent, la seule qui ait été mise au jour est celle qui a été fouillée dans un site qui s'appelle Pyrgos Mavroraki et qui a été fouillée par Madame Belgiorno, qui a publié une longue série d'articles dont je vous fais grâce, mais plusieurs ouvrages, notamment sous forme d'exposition ou de recueil de colloques. Le premier, peut-être le plus accessible, est celui qui s'appelle « I profumi di Afrodite » et « Il segreto dell'olio », paru à Rome en 2007, qui est en fait le catalogue d'une exposition qui avait lieu à ce moment-là. Et plus récemment, en 2009, Madame Belgiorno a publié un recueil qui s'appelle « Cipro, all'inizio dell'età del bronzo, realtà sconosciuta della comunità industriale di Pyrgos Mavroraki », qui fait le point de ces installations. Le site se trouve à 4 km de la mer. Vous voyez ici, donc, sur cette diapositive, une vue par satellite de l'île de Chypre. Et donc, dans la partie sud, ce site de Pyrgos Mavroraki. Il a été occupé principalement au bronze moyen et abandonné vers 1850 avant Jésus-Christ, à la suite d'un tremblement de terre suivi d'un grand incendie dans lequel on brûlait de grandes quantités d'huile contenues dans des jarres. Cette circonstance particulière a permis une excellente conservation des vestiges qui, en quelque sorte, sont fossilisés par ce tremblement de terre et cet incendie et a permis aussi une bonne conservation des matières organiques. La zone qui a été fouillée jusqu'à présent couvre 4000 mètres carrés et elle est répartie en deux cours et sept pièces. Elle correspondrait à l'annexe d'un palais, et donc l'annexe en quelque sorte industrielle, en tout cas artisanale, d'un palais où des dépendants s'activaient pour remplir en quelque sorte les besoins, fournir le palais en tissu, en vin, en huile parfumée et en métaux, notamment en cuivre. Au centre de l'installation, dans la partie qui est ici, se trouvait, la salle qui est interprétée comme la salle du pressoir, et elle est entourée, donc, comme vous le voyez, de divers secteurs destinés à toutes ces productions que je viens d'énumérer, donc allant de la métallurgie du cuivre à la production du vin. Selon les fouilleurs, le pressoir donc se trouve ici et il est caractérisé par une longue cloison qui supportait le pressoir. Il est flanqué d'une salle où on emmagasinait l'huile. Et effectivement, on y a trouvé, nous allons le voir, un grand nombre de jarres à huile. Il est flanqué donc d'une zone de fabrication des parfums sur laquelle on va revenir et vous voyez ici des zones où l'on produisait du cuivre. Ici, une pièce serait destinée à la production du vin et une autre à la production des parfums. La pièce centrale qui nous intéresse plus particulièrement est caractérisée donc par cette cloison et sur le côté, on a donc le magasin où étaient contenus ces grandes jarres d'huile. On en a trouvé 9 qui contenaient chacune 5 à 600 litres d'huile, et ce qui explique évidemment la violence de l'incendie. Et les fouilleurs pensent que le pressoir se trouvait à cet endroit-là et proposent une restitution. Ici, vous voyez sur cette diapositive les jarres en cours de fouille. Et ils proposent donc de restituer au-dessus de cette cloison un pressoir. Selon moi, la restitution proposée est absolument impossible. Il est inenvisageable que le tronc repose sur la banquette, car il n'aurait pas pu remplir son office, puisque au lieu de presser, il aurait reposé presque tout de suite sur cette banquette, dont l'usage est encore à déterminer. Mais cela n'empêche qu'il y a vraisemblablement quelque part dans cette salle un pressoir, car les fouilleurs ont mis au jour une pierre, cassée en deux d'ailleurs, et qui supportait les scourtins remplis de pâtes d'olive. Et donc, il est tout à fait vraisemblable que dans cette pièce, quelque part par ici, il y avait un pressoir d'un type à déterminer qui produisait donc l'huile qui était emmagasinée dans les jarres que nous venons de voir. Mais au-delà donc de cette cloison, qui selon moi ne correspond pas au pressoir, mais peut-être simplement une cloison de séparation entre les pièces, il y avait ici un ensemble qui est interprété comme une parfumerie. Avant de l'aborder, il faut voir que l'huile utilisée dans cette installation était probablement utilisée pour d'autres productions, notamment pour la métallurgie du cuivre, où la dimension des creusets, la forme des fours, la rareté des charbons de bois a fait penser aux fouilleurs qu'on utilisait de l'huile pour faire fondre le cuivre, dont on a trouvé un très grand nombre de scories. De la même façon, on a peut-être utilisé aussi l'huile pour travailler les fibres textiles qui ont été trouvées dans les fusaïoles et dans les vestiges d'un métier à tisser trouvé dans l'une des pièces qui est à côté. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la parfumerie qui est dans... donc dans cette partie de la salle du pressoir qui a été fouillée en 2003. Et il semblerait qu'au moment du tremblement de terre et de l'incendie qui a suivi, les opérations d'enfleurage étaient en cours. En effet, les fouilleurs ont mis au jour, ici, 14 fosses, vous voyez dans cette photo, 14 fosses dans lesquelles ils ont trouvé des espèces de cruches. Donc là, dans une restitution a posteriori, vous voyez sur cette diapositive les fosses avec les vases reconstitués tels qu'ils ont, à l'endroit en tout cas où ils ont été trouvés. Et autour de ces fosses et de ces cruches se trouvaient, comme vous pouvez le voir, de nombreuses meules en basalte et des petites molettes pour écraser des ingrédients. Se trouvaient aussi aux environs des tasses à un bec latéral, des entonnoirs, des ascoïs et des bouteilles qui sont probablement destinées à recueillir le produit. Il y avait aussi deux grands vases, une amphore flanquée de deux anses représente des statuettes anthropomorphes, et une cruche décorée de serpents en relief et d'une figure anthropomorphe. Alors, les analyses qui ont été faites, et nous reviendrons là-dessus plus en détail, ont mis en évidence la présence d'huile d'olive, mais aussi, paraît-il, de coriandre, d'amandes amères, de térébenthe, de romarin, de camomille, de sauge, de persil, de laurier, de résine de pin, de myrte et de lavande. Les analyses semblent confirmer la technique d'extraction à chaud des parfums, car chacune de ces petites cruches était située donc dans ces fosses où on a trouvé une quantité notable de charbon de bois, et donc il semblerait que le procédé était en cours au moment du tremblement de terre. Il y a aussi deux vases, alors vous voyez ici plus en détail, d'un peu plus près, la disposition des molettes avec les pierres qui servaient à préparer les ingrédients. Ici, donc, les cruches posées sur des lits de charbon de bois et les divers instruments tels que les tasses avec bec et les entonnoirs. Entonnoirs que vous voyez sur cette diapositive, vous voyez ici donc ces instruments très particuliers qui devaient servir à transvaser et à doser les divers liquides. Et il y a aussi la présence de deux vases à long bec que vous voyez ici dans une reconstitution qui pourraient avoir fonctionné avec des cruches et des bassins pour former une espèce d'alambic primitif dont on aurait extrait, qui aurait servi à extraire des eaux et des eaux de fleurs et des huiles de fleurs. Alors, ça n'a pas été trouvé dans cette position. Tout ça, c'est une reconstitution donc soumise à discussion. Mais effectivement, la forme très particulière de ce vase pourrait correspondre à ce type d'installation. La fouille a été en permanence accompagnée par des analyses. Et donc, il faut quand même souligner cette avancée très importante. Analyse à la fois des poteries, mais aussi des macro-restes et des pollens qui étaient conservés dans les sols. Les résultats semblent donc extrêmement encourageants, en ce sens qu'ils confirmeraient l'interprétation comme un atelier palatial consacré donc, non seulement à la fabrication des métaux et des textiles, mais aussi de l'huile parfumée. Toutefois, on peut se demander si les résultats de ces analyses ne sont pas trop beaux, si l'on peut dire. Alors, on a la conjonction de macro-restes, de l'étude des macro-restes, c'est-à-dire des petites graines qui sont étudiées à la binoculaire ou au microscope, des pollens et des analyses chimiques. Chacune se confirme point par point, ce qui paraît presque extraordinaire. Dans l'article d'Alessandro Lentini et de M. Scala, qui s'appelle « Aromatic and Therapeutic Substances from the Prehistoric Site of Pyrgos Marumaki, a Preliminary Chemical Toxicological Investigation », qui est paru dans « Aromata Cipria, l'olio di oliva nei profumi e nei medicinali di Cipro » en 2006, article qui a été repris dans les publications successives, telles que en 2009, un article en italien qui s'appelle Tra archeologia e archeometria, archeologia e paesaggio naturale, indagini archeobotaniche e fisico-chimiche, paru dans l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure qui s'appelle Cipro à l'initio dell'età del bronzo en 2009, et répété dans un certain nombre d'autres articles. Plus ou moins récent à la même période, on a donc la conjonction de ces diverses analyses qui portent d'une part donc sur les macro-restes et qui nous apportent des données brutes. Ces macro-restes qui ont permis d'identifier l'olivier, vous voyez, des noyaux d'olive, le coriandre, on a un macro-reste de ce type, mais aussi le blé dur, la veste, l'avesse, la figue, le lin, l'orge, la vigne et le laurier. Et puis, les analyses polliniques qui ont permis de retrouver le pin, le cèdre, le laurier, l'olivier, le romarin, le pavot, le myrte et le térébinthe. Donc, on a ces bases qui, effectivement, sont relativement sûres. Et donc, grâce à ces études, on a un spectre des pollens qui est assez caractéristique et qui permettent donc de refléter, en tout cas, l'environnement immédiat du site. Les analyses chimiques, par contre, sont beaucoup plus d'interprétation beaucoup plus complexe. Dans certains niveaux qui paraissent riches en matière organique et en résine, les échantillons de sédiments ont été analysés en utilisant la méthode de l'absorption chromatique. Cette méthode utilise une base de solution au solvant acide ou alcalin afin d'obtenir un réactif, enfin par un réactif, une couleur qui détermine le champ analytique jusqu'à ce qu'on obtienne une réaction spécifique à un produit. Les résidus extraits par solvant sont donc soumis à des tests qui réagissent avec une couleur qui est ensuite affinée progressivement par d'autres méthodes. Par exemple, l'échantillon 03HSL6 qui a été extrait d'une fusaïole à l'intérieur de laquelle des matières organiques étaient conservées. L'échantillon a été extrait au chloroforme, a été soumis à divers réactifs, et ainsi on a pu identifier de la présence de la résine de Pistacia terebinthus, c'est-à-dire la térébinthe de Chypre, qui aurait été utilisée pour aromatiser des parfums ou du vin, etc. De la même façon, dans l'échantillon 03J6L5, qui est un supposé vase à parfum, on a extrait à l'alcool et à l'éther un produit qui obtient une couleur rouge, identifiée comme étant le coriandre et le laurier. Et par d'autres méthodes, avec une extraction au chloroforme et réaction, on identifierait aussi le térébinthe. Ainsi de suite, il y en a donc une liste tout à fait impressionnante, puisque pratiquement tous les vases ont été soumis à ce type d'analyse. On a trouvé, donc, par ces méthodes, des résines de conifères, également des résines de plantes médicinales, on a obtenu des réactions qui sembleraient montrer l'utilisation du pavot et des substances extraites du pavot, donc avec une visée médicinale. Or, il faut se demander si les méthodes de détection chimique qui ont été employées en la circonstance sont bien adaptées aux sédiments archéologiques qui, comme nous l'a montré Nicolas Garnier dans un séminaire qui a eu lieu il y a trois semaines, ont été soumis au cours du temps à de très nombreuses dégradations. Les premiers tests qui ont été effectués sur ces échantillons utilisent donc des réactions chimiques de donnant des couleurs. Un test positif rend probable la présence d'un ingrédient dont les auteurs de l'étude soupçonnent la présence sur la fois de pollen et de macro-restes, et ou alors de la vraisemblance en fonction des connaissances actuelles de l'environnement, par exemple, donc, nous l'avons vu, le coriandre, la lavande, l'anis étoilé ou le pavot. Or, ces tests colorimétriques ne sont pas aussi spécifiques que les auteurs veulent bien le dire. Le test dont la couleur jaune, par exemple, indiquerait la présence de térébinthe pourrait signaler toute autre résine présente à faible dose. Les tests complémentaires qui sont effectués et qui sont cités en complément de la première approche, comme par exemple celui d'Alphen Grimaldi, permettent de déceler des composés insaturés, mais pas d'aller jusqu'à identifier précisément le produit, comme l'essence de bergamote, comme ils veulent bien le publier. La détection des phénols qui a été utilisée pour identifier le pavot ne saurait se résumer à cette hypothèse sans examiner toute la gamme possible des polyphénols de fruits ou de fleurs. Bref, sans entrer dans le détail de chaque résultat, on observe que les méthodes employées sont inadéquates et ne suivent pas les protocoles couramment utilisés désormais par l'ensemble des chimistes qui travaillent sur ces questions et particulièrement sur les sédiments archéologiques, tels que, par exemple, l'analyse en chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide, associée, comme on vous l'a montré, à la spectrométrie de masse et à d'autres instruments de récente mise au point. Alors que ce gisement est exceptionnel par son état de conservation et par la préservation des sédiments, alors qu'il faut le souligner, la fouille a été couplée dès le départ à des analyses de tout type, et il faut vraiment remarquer cette avancée, la partie chimique me semble en retrait de ce qu'on attendrait aujourd'hui et ce qui entache malheureusement les résultats d'un doute. En résumé, je crois qu'on peut raisonnablement penser que cet atelier palatial multiforme, associant la production de l'huile, du vin, du cuivre et des textiles, a réellement produit des parfums, voire des substances thérapeutiques. Mais les données disponibles ne permettent pas d'assurer qu'on y a produit tel ou tel type d'huile. Si le romarin, la térébinthe, le laurier, le coriandre sont attestés par des analyses de pollen et les macrorestes, et ça je pense que c'est un fait, il n'est pas tout à fait certain qu'on en extrayait des huiles essentielles. Ces végétaux, en effet, sont naturellement présents dans l'environnement et ont pu, en quelque sorte, être piégés naturellement dans les sédiments. De la même façon, l'hypothèse de l'utilisation de certains vases pour composer des alambics est très tentante. Mais elle n'est pas encore prouvée par la découverte en place des éléments. Nous avons vu que c'est une reconstitution excitante, plausible, mais on n'a pas les éléments trouvés véritablement en place. Il y a donc du travail encore à faire pour fournir des plans détaillés, des objets découverts et non des reconstitutions, pour suggestives qu'elles soient. Des analyses chimiques employant d'autres méthodes seraient aussi nécessaires pour vérifier les hypothèses émises avec peut-être une trop grande assurance dans les publications qui ont été faites. Et à ce propos, donc, je vous mets sur l'écran le résumé des analyses faites dans les divers échantillons avec les divers vases. Vous voyez que ça concerne aussi bien des cratères que des vases supposés être à parfum, mais aussi des niveaux de fréquentation. Et le résultat des analyses est extrêmement précis, puisque on nous donne comme assuré la découverte d'huile d'amande, de présence de romarin, d'éphédrine, d'alcaloïdes de diverses sortes, de pavots, etc. Je pense que, avant d'arriver à ces résultats qui sont presque trop beaux, il conviendrait de croiser donc ces analyses avec d'autres méthodes de façon à assurer cette identification. On le voit donc, même dans le cas d'un site exceptionnellement préservé, il faut garder un esprit critique qui doit nous guider aussi dans l'examen des ateliers de parfumeurs crétois et mycéniens auxquels je vais me livrer dans un petit moment après vous avoir accordé 5 minutes de pause.